Isabelle Fontaine, bon début de journée.
Bon matin, Steve.
Revenons peut-être sur le dossier Récupestrie et puis Valoris.
Et puis Valoris, hein? Une excellente entrevue où il reste encore, comme tu le dis, plein de questions. Moi, je comprends mal initialement comment ça se fait que ce sont des municipalités avec de l'argent public qui achètent des équipements. Quand M. Roy dit « l'objectif, c'est de ne pas enfouir », parfait, c'est effectivement l'objectif du gouvernement du Québec aussi de limiter l'enfouissement, mais comment ça se fait qu'on ne fait pas simplement un appel d'offres pour ou un appel de solution où on pourrait donner, une certaine proportion au prix, mais aussi au détournement de l'enfouissement, donner une valeur à ça et après ça, octroyer les tonnages à la meilleure solution qui nous sera proposée, qui viendra du privé, avec un prix sur la tonne qu'on paye. Et après ça, c'est l'entreprise privée ou le collectif d'entreprises privées qui prend le risque d'atteindre, de réaliser le projet ou la valorisation des matières au prix fixé dans le contrat, plutôt que d'acheter des équipements qui, visiblement, dans ce cas-ci, n'ont pas fait leur preuve.
Ne fonctionnait pas comme on le souhaitait.
Moi, j'ai vraiment l'impression que Valoris, que Sherbrooke puis le Haut-Saint-François ont servi de cobaye pour tester une technologie qui n'est pas arrivée à maturité ou en tout cas qui n'était pas appropriée dans les besoins qu'on a. Tu sais, il me semble qu'un an de ligne de tri fermée, c'est bien la preuve de ça.
Tout à fait. Puis eux vont se défendre en disant « Ouais, mais vous l'avez mal géré, cette ligne-là, c'était mal encadré. Tu sais, je sais pas où était le problème, mais visiblement, il y en avait un. »
C'est ça, mais si c'était le privé qui avait pris la responsabilité et qui l'avait mal géré ou bien géré ou qui avait fait des erreurs d'évaluation, c'est le privé qui aurait assumé les risques ou les conséquences de cette décision-là. Alors que là, c'est Valoris. Donc, chacun d'entre nous, qui enfouissons nos matières ou en qui envoyons nos matières-là, qui payons pour ce risque-là, puis qui devons remettre de l'argent, puis qui n'atteignons pas les résultats qu'on cherche à atteindre. L'autre chose qui me questionne, c'est quand il dit Valoris peut fonctionner, l'objectif de Valoris, c'est de ne pas enfouir. OK, mais c'est quoi le modèle d'affaires de Valoris? Il essayait de séparer Valoris et Récupestrie. Tu l'as dit, ça te semblait évident, ça me le semble aussi, c'est lié. Si on ne veut pas enfouir, il faut trouver un autre issue pour ces matières-là. S'il y en a une grande partie qu'on envoie par la collecte sélective qu'on fait chez nous, chez Récupestrie, et que même Récupestrie, à cause de la crise internationale du recyclage...
Va devoir en enfouir des tonnes,
n'est pas en mesure de valoriser ou de trouver des débouchés sur des marchés pour toutes ces matières-là. Je vois pas très bien quel genre de débouchés on va trouver pour les matières qu'on va extraire de nos sacs bruns ou de nos bacs bruns chez Valoris. T'sais, si on les enfouit pas, on fait quoi avec?
Il faudrait être très créatif, là.
Oui, absolument. Mais est-ce que... Puis c'est important, mais est-ce que ça devrait être les municipalités qui trouvent des débouchés payants et intéressants ou c'est pas plutôt le privé qui est mieux positionné pour trouver des débouchés qui sont payants pour ce genre de matière-là? Ou est-ce qu'on peut pas plutôt prendre l'argent public pour financer des projets de recherche et des initiatives qui nous permettra...
De peut-être développer des technologies,
mais de le faire dans des projets de recherche plutôt que d'être, comme dans ce cas-ci, un peu le cobaye d'une technologie.
Ce qui est triste avec Valoris, là, c'est que l'idée, dans le fond, était bien bonne, c'est-à-dire on va essayer de moins enfouir, on n'a pas beaucoup de place pour l'enfouissement, ça nous coûte cher nos déchets, etc. Sauf qu'en bout de ligne, quel fiasco financier. Moi, j'ai hâte de voir à la fin quand ça va marcher pour vrai. Là. Si un jour ça marche pour vrai, là, je leur laisse le bénéfice du doute. Là. Mais quel fiasco financier ça va avoir coûté combien pour enfouir des déchets?
Exactement. Puis, tu sais, je veux dire, même pour l'entreprise qui a accepté ce contrat-là, ou en tout cas, quelle réputation elle se fait aussi dans sa difficulté de même installer une technologie dans sa région. Le porte-parole de l'entreprise ou le président disait qu'il ne voulait pas répondre aux questions parce qu'il était occupé à un contrat à l'international. Je me disais, hey, ça ne doit pas être facile si tu as des démêlés avec la justice chez vous, tu sais. Ça ne donne pas une très belle vitrine.
Et deux avancées hier pour la science. Bon, on a parlé un petit peu avec le doc des bébés génétiquement modifiés, mais aussi de la sonde sur Mars.
Ah oui, deux grandes avancées scientifiques. La sonde sur Mars, c'était vraiment impressionnant. Après 6 mois de voyage, là, en mille, c'est 3 millions de milles. Je ne sais pas combien ça fait en kilomètres, mais c'est quand même impressionnant. Donc, la sonde s'est posée sur Mars. L'objectif, c'est de mesurer puis de recueillir des données sur le sol, mais surtout sur le sous-sol. T'sais. Donc, il y a toutes sortes de sensors qui vont mesurer ce qu'eux ont appelé les tremblements de Mars. Hein, c'est pas des tremblements de terre.
Ben oui.
Mais aussi d'envoyer par mesure sonore, de cartographier le sous-sol de Mars. Donc, vraiment, une avancée scientifique importante. Puis c'était vraiment beau de voir, je sais pas si vous avez la chance de regarder le vidéo, de tous ces ingénieurs puis ces scientifiques réunis dans la salle de contrôle qui, au moment où la sonde se pose sur Mars, Mars éclat de joie, bonheur, tu sais, aussi beau à voir qu'une équipe de hockey qui gagne la Coupe Stanley, c'est vraiment impressionnant. Comment des scientifiques qu'on imagine très proches de leur intellect peuvent avoir des émotions
si fortes. Hein, tout à fait.
C'était vraiment. Puis.
Mais tu sais, la science nous coûte cher. Hein, ben, ça coûte un milliard.
C'est presque un milliard. Hein, 814 millions pour la NASA et la France et l'Allemagne ont contribué. Je voudrais remarquer que c'est à peu près ce qu'on a mis dans Bombardier. Fait que science pour science, je trouve que c'est un voyage sur Mars pas si cher payé.
Et tu es en train de nous dire que dans un des cas, on a envoyé quelque chose sur Mars, puis dans l'autre, on a perdu 2500 jobs. C'est-tu ce que tu me dis?
Pour rien envoyer dans le ciel.
Tout envoyé dans les poches, par contre. Hein? Tout est allé. Remarque, l'argent voyage.
Exact. L'argent, ou essaye de nous faire voyager, ça dépend. Il y a des succès et des échecs. Mais non, c'est un beau clin d'œil à faire pour le milliard. Pour ce qui est des bébés, bien, dans le longuement. C'est sûr que ça m'inquiète. C'est sûr que tu sais, c'est un débat, c'est tout le débat éthique qui entoure cette question-là, les bébés génétiquement modifiés. Oui, dans ce cas-ci, on trouve l'avancée noble parce qu'on réussit à éradiquer le sida en quelque part, ou en tout cas empêcher la propagation de l'infection. C'est une chose. En même temps, il y a toute la question éthique qui va avec ça, à partir d'où on va se mettre à faire des modifications génétiques pour choisir le sexe, la couleur
la
des
grandeur.
Yeux,
veux-tu
la
des
grandeur,
bébés de,
veux-tu
le des petits
look.
Garçons de 6 pieds 2? Est-ce
Exactement.
Que tu veux? C'est tout ça, là.
Donc, puis c'est pas pour rien que c'est interdit, ce genre de manipulation-là, dans la majorité des pays, puis que là, on semble avoir fait l'avancée en Chine. Mais l'autre chose qui est intéressante ou fascinante ou inquiétante, c'est que dans le fond, il n'y a pas de preuves. On dit que ces deux bébés-là sont nés, mais il n'y a pas, ce qui est très important dans la recherche scientifique, soit une validation par les pairs ou soit une confirmation par écrit d'un projet de recherche qui a mené à des résultats, on ne le sait pas. Puis on ne sait pas non plus, le doc le soulevait, comment est-ce que, qu'est-ce qui va se produire quand ces enfants-là vont devenir adultes et vont faire eux-mêmes des enfants, comment cette nouvelle transformation génétique va muter dans le temps d'un être humain
est-ce
à l'autre.
Est-ce qu'on peut le freiner en même temps? T'sais, je me pose la question. Je ne suis pas sûr qu'on peut arrêter ça. Et ce qui est peut-être inquiétant, c'est que tu vas toujours avoir un petit laboratoire clandestin en Russie. Là, c'est en Chine, là aussi où les droits de l'homme sont pas à leur plus haut
Puis,
non plus.
Je pense pas, je suis assez d'accord avec toi, je pense pas qu'on peut freiner l'avancement de la science. Regarde, on continue d'essayer d'aller sur Mars. Mais
le clonage, ce sont toutes des technologies qui ont quand même continué un peu. Là.
L'importance du débat éthique qui encadre le débat scientifique, des décisions qu'on prend, de la nécessité de toujours garder le réseau scientifique très fort puis d'assurer une collaboration entre tous les scientifiques pour que tous les pays y soient impliqués et contribuent à l'encadrement éthique.
Je suis en désaccord avec toi là-dessus. Tu vois, Donald Trump l'a dit hier, un document de 1000 pages sur le changement climatique par plus de 300 scientifiques. C'est pas vrai.
Fake news! Ça, c'est beaucoup plus inquiétant, je pense, que des avancées scientifiques que pourraient faire des scientifiques sérieux.
Et qu'est-ce qui m'inquiète le plus? Donald Trump ou les millions d'Américains qui ont voté pour lui? C'est à voir. Merci beaucoup, Isa.
Non, mais tu parles de Donald Trump, puis je t'interromps, mais hier, Bernie Sanders a laissé courir la possibilité qu'il allait se présenter lui aussi au présidentiel. Hein? Et il a dit, dans ma traduction, s'il n'y a pas de meilleur candidat que moi sur la liste pour battre Donald Trump, j'irai. Il a dit aussi des choses intéressantes, comme Donald Trump suscite la division, moi je veux susciter le rassemblement. Mais c'est quand même un message à Hillary Clinton qui dit genre, je ne crois pas que ce soit toi, Hillary, la meilleure candidate pour battre Donald Trump. Donc j'espère qu'on n'aura pas une prise 2 Hillary-Bernie, mais...
J'aimais beaucoup Bernie Sanders, mais force est d'admettre que physiquement, il est amoindri.
Écoute,
là.
Je pense qu'il a 77 ans.
Écoute, il a l'air d'un personnage des Simpsons.
Mais moi, je pense que c'est juste un avertissement puis un appel à ce que des jeunes issus de son mouvement prennent la pôle puis s'activent puis prennent le leadership d'une
Isabelle Fontaine, joyeux anniversaire.
Oh, merci.
Au plaisir de se reparler demain. Bonne fête.
À demain.